Alors, on va continuer sur l'espérance. Vous connaissez l'acte d'espérance maintenant par cœur. Sinon, je désespère. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Bon. Alors, la dernière fois, donc, on a parlé des ennemis de l'espérance. Là, ça sera plutôt les aides de l'espérance. Qu'est-ce qui nous aide à espérer? Avant d'entrer dans les choses que je vais vous dire, et je repars de la dernière citation que j'ai prise la dernière fois pour ne pas vous laisser sur la désespérance, justement. C'est Saint Paul qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude à vous qui croyez la joie et la paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. » Alors, l'espérance, bon, il y a certainement des efforts à faire, etc., mais c'est d'abord un don de l'Esprit-Saint, hein, de jamais perdre ça de vue, que avant d'être quelque chose qui est de nous, c'est d'abord quelque chose qui nous est donné par Dieu. Alors, avant de vous dire plein de choses qu'il faudrait faire, Voilà. Donc, ça veut dire, donc c'est un don de l'Esprit-Saint, mais après, pour nous, il faut quand même travailler un petit peu si on veut grandir dans l'espérance. Ça ne vient pas tout seul non plus. C'est la première fois que j'y pensais comme ça. C'est tout bête, hein, ce que je vais vous dire. Et donc, samedi dernier, c'était l'évangile de la multiplication des pains. Et quand vous multipliez par zéro, qu'est-ce que ça donne? Ça fait toujours zéro. Ça veut dire qu'avec la grâce de Dieu, c'est un peu ça. Il faut quand même donner un petit quelque chose de notre côté. Bon Dieu, il peut multiplier à foison après, mais s'il nous ça reste zéro, ben ça restera zéro aussi. Donc la multiplication, il faut toujours quelque chose pour multiplier. Même si ce n'est pas grand-chose, lui, il peut multiplier par un million, ou voilà. Mais si vous êtes toujours à zéro, ben, ça sera toujours zéro. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc l'espérance, c'est le bon Dieu qui vous la donnera. Mais en même temps, voilà, il faut que vous donniez quand même 5 points de poisson, il faut que vous donniez un petit quelque chose pour que, voilà, que au moins votre bonne volonté, ou voilà... Alors, je vais essayer de vous dire quatre choses. Quatre choses qui aident, aujourd'hui en tout cas, quatre choses qui aident dans le sens pour progresser dans l'humilité. D'abord la prière, ce sera la première chose que je... Parce que c'est dans la prière que l'espérance s'approfondit, se fortifie. Donc la prière, je vais en parler un petit moment. Après, la pauvreté. Alors, je ne sais plus si j'avais donné cette citation du pape François la dernière fois. L'espérance n'est pas une vertu pour les gens qui ont l'estomac plein. Autrement dit, si on n'a pas besoin, ben voilà. L'espérance, il faut ressentir un certain besoin ou percevoir un certain besoin, avoir un certain besoin et après le percevoir. Donc, la prière, la pauvreté... qui rejoint un peu la pauvreté, l'humilité. Parce que si on ne veut pas se faire aider, ben, le bon Dieu il nous laisse... voilà, il faut accepter de recevoir aussi. Et ça demande pour une part de l'humilité. Et puis la quatrième chose, si on a le temps, je vais parler un peu de l'action. Hein, c'est un peu ce que je vous ai dit dès le début, voilà. Pour espérer, ben, il ne faut pas rester non plus assis complètement. Il ne faut pas rester complètement passif. Il y a un petit quelque chose à se mettre en route quelque part. Voilà. Alors, il y a d'autres choses, d'autres. Vous savez que donc Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, nous donne deux autres lieux d'apprentissage de l'espérance. Il parle de la souffrance comme d'un lieu d'apprentissage de l'espérance. Alors ça sera la prochaine halte spirituelle, le lien entre l'espérance et la souffrance. Et il parle du jugement dernier comme lieu d'apprentissage de l'espérance. Alors on parlera du jugement dernier, de la vie éternelle, etc. donc dans l'halle spirituelle du mois d'avril. Et puis, on ne parle pas directement, mais on parlera aussi de Marie au mois de mai et des saints, parce que l'espérance, on n'est pas tout seul, et pouvoir s'appuyer sur... alors que je cite quelque chose, il me semble, de la préface des saints: dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, dans leur intercession, un appui. Donc, ils nous aident à espérer aussi. Ce que Dieu a pu faire en eux, il peut le faire en nous, et puis ils intercèdent pour nous, donc c'est très bien. Voilà, c'est bon. Maintenant, on démarre donc sur le premier des quatre points d'aujourd'hui, sur la prière. Alors, Benoît XVI, il en parle dans son encyclique sur l'espérance au numéro 32 à 34. Et une première chose qu'il dit de la prière comme lieu d'espérance, c'est, voilà ce qu'il dit: si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui peut m'aider. Voilà. Celui qui prie n'est jamais totalement seul. Alors, déjà, je pense qu'une aide, justement, dans l'espérance, c'est de savoir que Dieu est là. Vous connaissez sans doute le cardinal Von Thuan, qui est un Vietnamien, comme le nom l'indique, François-Xavier Von Thuan, qui il est mort en 2002, si mes souvenirs sont bons, ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui était assez remarquable. Il était 13 ans en prison, dont 9 années d'isolement. Et pour lui, voilà ce qui l'a aidé à ne pas perdre la tête, c'est aussi de savoir que Dieu était présent. Le fait, il était en isolement, donc tout seul, à certains moments, il avait une cellule complètement noire, avec aucun éclairage, tout ça, avec beaucoup d'humidité, etc. Il s'est dit, il faut... Alors, il se rappelait les prières, il avait une mémoire prodigieuse, donc il s'est reconstitué un petit peu Et puis, il faisait un pas en avant, un pas en arrière pour faire un peu d'exercice, mais il n'avait pas beaucoup plus de place que ça pour bouger. Donc, vous voyez les circonstances, tout seul. La seule chose, c'est qu'il voyait une main passer un plat, mais à un moment, il s'adressait à lui, après, puis une parole, tout ça. Mais il avait quelqu'un pour parler, parce qu'il avait la foi et il parlait à Dieu. C'est ça qui l'a empêché de devenir fou dans cette prison. Nous, c'est pas aussi extrême que ça, je pense. Mais à certains moments, on peut éprouver une grande solitude dans certains moments de notre vie, dans certaines situations. Mais voilà, celui qui prie n'est pas seul. Deuxième élément concernant la prière, c'est qu'on voit beaucoup dans les psaumes, mais c'est de faire mémoire qui nourrit notre espérance, c'est faire mémoire des bienfaits de Dieu. Alors, il y a un certain nombre de psaumes qui vont dans ce sens-là. Le psaume 136, par exemple. Alors après, je m'y perds toujours un peu dans la... 136, c'est la numérotation de l'hébreu. C'est 135 dans la numérotation liturgique. C'est tout... 136 dans votre Bible. Habituellement, dans la Bible, c'est la numérotation en hébreu. Bon, vous le connaissez tous, hein, ce psaume. C'est « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des, bons, des dieux, car éternel est son amour. » Et après, il se remémore toutes les merveilles. « Lui seul a fait des merveilles, éternel est son amour. Il fit les cieux avec sagesse, hein, le Créateur, éternel est son amour. Il a fermé la terre sur les eaux, éternel est son amour. » Et c'est intéressant, dans cette prière d'action de grâce, on se remémore les bienfaits de Dieu. Et on a besoin de se remémorer les bienfaits de Dieu, mais vous pourriez faire ce psaume, l'adapter aussi à votre vie personnelle, pas simplement dans des choses qui sont peut-être un peu lointaines pour vous, mais voilà, de se rappeler, de garder en mémoire des moments où on a fait l'expérience de Dieu, où il était présent, où il nous a accordé certaines grâces. Ça, on a besoin d'en faire mémoire. Ces moments aussi, c'est cette mémoire qui nous aide à passer des moments quelquefois plus difficiles. Une citation de Benoît XVI qui commentait ce psaume. Le 19 octobre 2011, vous saurez tout, il dit, entre autres, « La mémoire devient force de l'espérance. La mémoire nous dit Dieu existe, Dieu est bon, éternel est sa miséricorde. Et ainsi la mémoire ouvre, même dans l'obscurité d'un jour, d'un temps, la route vers l'avenir. Elle est lumière et étoile qui nous guide. » Nous avons, nous aussi, une mémoire du bien, de l'amour miséricordieux, éternel de Dieu. Voilà. Alors, donc ça, c'est un deuxième aspect de la prière. Un aspect de la prière, c'est « je sais que je ne suis pas seul ». Un autre aspect, c'est « je fais mémoire des bienfaits de Dieu dans ma prière ». Donc, il y a toute la dimension de l'action de grâce dans la prière qui est importante. Troisième aspect de la prière qui est en lien avec l'espérance, c'est que la prière élargit le cœur à Dieu. Et le pape Benoît citait saint Augustin qui faisait une relation entre la prière et l'espérance, et il définissait la prière comme un exercice du désir. Mais son cœur est trop étroit pour la grande réalité qui lui est assignée. Il doit être élargi. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Alors, il prend une image d'un seau qu'on veut remplir de miel, symbole de la tendresse de Dieu, de sa bonté. Mais si t'es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel ? Le vase, c'est-à-dire le cœur, doit être d'abord élargi et ensuite nettoyé, libéré du vinaigre et de sa saveur. Cela requiert de l'effort, coûte de la souffrance, mais c'est seulement ainsi que se réalise l'adaptation à ce à quoi nous sommes destinés. Donc la prière qui élargit le cœur à Dieu. Donc, alors, quelquefois, on patiente hein, dans la prière, mais ce n'est pas en vain, ça nous permet de nous élargir. Mais c'est pareil avec vos enfants. Hein. Quelquefois, s'ils font un caprice pour une petite chose, ben c'est bien de leur apprendre à attendre aussi pour élargir leurs désirs et pas se concentrer juste pour des choses trop modestes. La prière élargit aussi le cœur aux autres. L'homme ne devient pas libre seulement pour Dieu, mais il s'ouvre aussi aux autres. Prier ne signifie pas sortir de l'histoire et se retirer dans l'espace privé de son propre bonheur. La façon juste de prier est un processus de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de la sorte capables aussi des hommes. À plusieurs reprises dans son encyclique sur l'espérance, Benoît XVI nous dit que l'espérance est devenue quelque chose d'un peu trop individualiste, un peu trop dans ma relation avec Dieu. Mais il y a une dimension dans la parole de Dieu, il y a vraiment une dimension communautaire de l'espérance. Ce n'est pas moi tout seul avec le bon Dieu, et on le retrouve dans la prière. Hein, pour que notre prière soit tout à fait authentique, pour le moins, il faut que les autres ne soient pas exclus de notre prière. Alors, ça, c'est le minimum. Et au contraire, qu'ils soient présents dans notre prière, c'est encore mieux. Alors, je parlais de la prière qui élargissait le cœur à Dieu, aux autres, mais la prière aussi qui, comme un lieu de purification. Ça va, je ne vous endors pas? C'est à mauvaise heure, hein? Non? Dans la prière, l'homme doit apprendre ce qu'il peut vraiment demander à Dieu, ce qui est aussi digne de Dieu. Il doit apprendre ce qu'on ne peut pas prier. Il doit apprendre qu'on ne peut pas prier contre autrui. Il doit apprendre qu'on ne peut pas demander des choses superficielles et commodes que l'on désire dans l'instant, la fausse petite espérance qui le conduit loin de Dieu. Il doit purifier ses désirs et ses espérances. Alors bon, ça fait mal quelquefois un peu cette purification de... Voilà, parce que... Et la prière de demande, hein, le sens de la prière de demande, c'est pas faire pression auprès du bon Dieu pour que, à tout prix, il nous accorde ce qu'on... C'est en même temps, il y a des allers-retours dans la prière de demande. Quand il répond pas exactement comme on pense, c'est de s'ouvrir, mais peut-être que tu veux me donner autre chose ou autrement. C'est pas faire une fixation sur quelque chose et puis bouder tant que je l'ai pas et rester bloqué là-dessus. Hein. Donc il y a un aller-retour dans notre prière avec Dieu. C'est vraiment une relation avec Dieu, cette prière. Hein, c'est pas un monologue où voilà je dis les choses à Dieu et puis j'attends que non. Et c'est aussi écouter quelquefois dans son silence. Son silence veut quelquefois me dire quelque chose aussi. Autre dimension, toujours en lien entre la prière et l'espérance, c'est que la prière, c'est à la fois quelque chose de tout à fait personnel et à la fois, c'est bon de pouvoir s'appuyer sur la prière de l'Église. Et le pape Benoît se réfère une fois encore au cardinal Van Thuan, qui, à certains moments... Dans sa prison, il ne savait plus comment prier. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était des prières qu'il connaissait par cœur, le « Je vous salue Marie, notre Père ». Voilà, mais il était sec et inventer une prière, il ne pouvait pas. Mais dans la prière de l'Église, ben je vous le lis. Donc ce cardinal a raconté comment dans sa vie, il avait eu de longues périodes d'incapacité de prier. Et comment il s'était accroché aux paroles de la prière de l'Église, à notre Père, à l'Ave Maria et aux prières de la liturgie. Du coup, c'est vrai qu'à certains moments, on a envie quand on est en forme, tout ça, on a envie d'inventer nos prières et tout ça, mais à d'autres moments, c'est pas comme ça, donc... C'est bien d'avoir des prières toutes faites, ça nous aide, voilà. Et c'est bon pour notre humilité, et puis voilà. Autre élément, toujours pour nous soutenir dans l'espérance, dans la prière, la prière comme lieu qui nous soutient dans l'espérance, c'est la prière qui est inspirée par l'Esprit-Saint, donc dans la parole de Dieu. C'est Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Romains que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Alors c'est aussi par la parole de Dieu que le bon Dieu va nous façonner. Alors je vous cite... Benoît XVI, dans une audience du 26 septembre 2012, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Une manière de se laisser former par l'Esprit-Saint. Comment puis-je me laisser former par l'Esprit Saint et devenir ainsi capable d'entrer dans l'atmosphère de Dieu, de prier avec Dieu? Quelle est cette école à travers laquelle il m'enseigne à prier? Il m'aide dans mes difficultés à m'adresser de façon correcte à Dieu? La première école de la prière est la parole de Dieu, l'Écriture sainte. L'Écriture sainte est un dialogue permanent entre Dieu et l'homme, un dialogue progressif dans lequel Dieu se révèle toujours plus proche, dans lequel nous pouvons connaître toujours mieux son visage, sa voix, son être. Et l'homme apprend à accepter de connaître Dieu, à parler avec Dieu. Donc au cours de ces semaines, en lisant l'Écriture sainte, nous avons tenté à partir de l'Écriture, de ce dialogue permanent, d'apprendre comment nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Et de fait, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages qui nous aident à voir comment nous adresser avec espérance au bon Dieu. Je prends juste un passage d'évangile avec la femme hémorroïde, c'est Jaïr qui prie pour sa fille. Voilà, alors. Voilà la manière. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux dans la parole de Dieu où nous est enseignée cette prière, cette manière de s'adresser avec espérance devant Dieu. Et plus particulièrement, je m'arrêterai sur la prière des psaumes. Alors là, dans une autre catéchèse, Benoît XVI dit quelque chose de très intéressant sur les psaumes. C'était le 22 juin 2011. Comme ça, si vous avez envie, si vous ne savez pas quoi faire un jour, vous savez qu'il y a plein de choses, vous trouvez plein de choses intéressantes. Les psaumes enseignent à prier. Je ne vous lis pas tout, sinon je vais vous saouler. Mais ils sont une école de la prière. Alors, il advient quelque chose d'analogue lorsque l'enfant commence à parler. C'est-à-dire qu'il apprend à exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins avec des mots qui ne lui appartiennent pas de façon innée, mais qu'il apprend de ses parents et de ceux qui vivent autour de lui. Ce que l'enfant veut exprimer est son propre vécu, mais le moyen d'expression appartient à d'autres, et lui, peu à peu, s'en approprie. Les mots reçus des parents deviennent ses mots. Et à travers ces mots, il apprend aussi une manière de penser et de sentir. Je trouve que c'est intéressant, donc il prend ça pour les parents. Et nous, du coup, de rentrer dans la prière des psaumes, ça nous aide à entrer dans la manière de penser de Dieu. Vous vous mettez dans la posture de l'enfant et des parents. Voilà, la langue des psaumes devient notre langue. La langue de ses parents est enfin devenue sa langue. Il parle avec les mots reçus des autres qui sont désormais devenus ses mots. C'est bien ce qu'il éprouve lui, qu'il exprime, mais avec les mots de ses parents. Et nous, à un certain moment, si on s'est pénétré des psaumes, c'est bien ce qu'on vit, qu'on exprime, mais avec les mots de la parole de Dieu. Ainsi en est-il avec la prière des psaumes. Ils nous sont donnés pour que nous apprenions à nous adresser à Dieu, à communiquer avec lui, à parler de nous avec ses mots, à trouver un langage pour la rencontre avec Dieu. Et à travers ces mots, il sera possible aussi de connaître et d'accueillir les critères de son action, de s'approcher du mystère de ses pensées et de ses voix, afin de grandir toujours davantage dans la foi et dans l'amour. Ça nous apprend à connaître le cœur de Dieu. Alors après, dans le psautier, donc vous avez toutes sortes de psaumes. Le psaume 21, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 41, « Pourquoi te désoler, ô mon âme ?» Je ne vais pas tous les prendre, mais le psaume 129, « De profundis. » « Seigneur, écoute mon appel, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, une prière d'espérance. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Bon, ça, c'est un des psaumes parmi tant d'autres. Hein, mais voilà, les psaumes qui, voilà, qui nous éduquent à l'espérance. Alors, il y a la prière qui est inspirée par l'Esprit-Saint dans la parole de Dieu, mais aussi par l'Esprit-Saint dans la liturgie. Alors, je vous cite toujours Benoît XVI. Il y a encore un autre espace précieux, une autre source précieuse pour grandir dans la prière, une source d'eau vive très étroitement liée à la précédente. Je veux parler de la liturgie, qui est un domaine privilégié dans lequel Dieu parle à chacun de nous, ici et maintenant, et attend notre réponse. Alors, Dieu nous a donné la parole et la sainte liturgie, et nous offre ses paroles. Nous devons entrer à l'intérieur des paroles, dans leur signification, les accueillir en nous, nous mettre en harmonie avec ces paroles. La liturgie est éducatrice aussi, hein, pas seulement les psaumes, mais voilà, la liturgie. Voilà. Bon, pour la prière, je ne vais pas vous en dire plus. Ça va? Alors, je vais vous parler un peu maintenant du deuxième point, c'est la pauvreté. La pauvreté, la sobriété. Donc, il y a différents ingrédients dans l'espérance, on pourrait dire. Et si on veut grandir dans l'espérance, ben, il faut travailler aussi sur d'autres choses à côté. Et sur cette pauvreté intérieure, mais aussi extérieure. Il ne s'agit pas d'être dans la misère, bien sûr, mais parce que bon, j'avais cité ce psaume la dernière fois. Non, c'est le psaume, j'ai oublié le numéro. Bon, c'est pas grave. C'est le psaume qui dit, mais l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. C'est le psaume 48, je crois. Et alors, bon, c'est pas très flatteur, hein. Ressemble au bétail qu'on abat, le bœuf gras, là. Voilà. L'homme ne peut pas acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Bon, en tout cas, donc, pour dire que si... De fait, c'est tout simple, hein, dans les pays riches, on n'a pas beaucoup d'espérance. Globalement, il y a plus d'espérance dans les pays pauvres que dans les pays riches. Ça veut dire que c'est important, la pauvreté, pas seulement matérielle, mais aussi matérielle. Alors, je vais vous citer le Père Lamy, c'est notre fondateur, alors je ne le cite pas très souvent, mais voilà. Entre toutes les vertus, celle que nous devons chérir comme une sœur bien chère, c'est la vertu de pauvreté, en raison des grâces qu'elle nous vaut de la part de Dieu. Elle nous met constamment en rapport avec Dieu pour le temporel. Pour ainsi parler, elle nous unit étroitement avec Dieu. Elle nous met dans la nécessité d'avoir sans cesse recours à la bonté de Dieu pour le besoin que nous en avons en raison des nécessités de la vie. Sans elle, éprouverions-nous le besoin de crier vers Dieu nos nécessités, les nécessités du prochain, nécessités pour l'âme, nécessités pour tous les besoins de la vie? Hélas, souvent non. Nous nous endormirions dans un néfaste sommeil, dans un repos dangereux. Mais la pauvreté est là, qui veille sur nous pour nous tirer de l'engourdissement mortel dans lequel nous glisserions si facilement. Voilà, alors la pauvreté qui, sous son aspect positif, encore une fois, il ne s'agit pas de la misère, hein, juste après, oui, je vous parlerai un peu de la sobriété, c'est un thème sur lequel le pape François revient régulièrement. Alors, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant dans le vocabulaire de théologie biblique. Vous connaissez ce livre, peut-être? Non? Pour ceux qui ont connu le père Caffarel, mais ça, c'est pas les jeunes. Hein. C'est les vieux comme moi. Donc, il était à Troussure. Et alors, il y avait la chapelle où on faisait oraison. On pouvait rentrer tous les quarts d'heure. Hein, toc. Sinon, là, c'était assez carré. Et mais avant d'entrer dans la chapelle, on ne pouvait pas ne pas passer par une pièce. Et dans cette pièce, il y avait des Bibles et des vocabulaires de théologie biblique. Et c'était très intéressant. C'était pour dire, pour la prière, si tu veux parler à Dieu, commence par écouter Dieu dans sa parole. Hein, la première démarche, ce n'est pas d'abord de parler, c'est commencer par écouter. C'était assez didactique, on pourrait dire, la disposition des pièces dans son... Et je trouvais ça très, très bien. Et c'est très profond aussi. Donc, commencer par écouter et pas simplement... que ça ne soit pas un monologue où voilà, on dit plein de choses, mais on n'écoute pas ce qu'il veut nous dire. Voilà. Alors, tout ça pour dire que, voilà, une citation du VTB, du vocabulaire de théologie biblique. Et voilà ce qu'ils disent. Ça m'a intéressé à propos de la tentation de s'installer. Depuis l'exil jusqu'au Messie, l'épreuve du petit reste est principalement une épreuve d'espérance. Le royaume semble reculer indéfiniment dans le temps. La tentation est celle du monde présent, de ce siècle-ci, la tentation du monde. Le peuple de Dieu, en danger de se séculariser, prend davantage conscience de l'action de Satan, prince de ce monde. Cette épreuve de l'espérance est la plus intime, la plus purifiante. Et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que, encore une fois, les pays riches, c'est là où on a le moins d'espérance, parce que finalement, on est plus attentif au monde présent qu'au monde à venir. Finalement, on s'inquiète à ce que notre maison soit bien et tout ça, mais il faut préparer votre résidence du ciel. C'est celle-là qu'il faut, parce que celle-là, vous ne l'aurez que quelques années, mais celle du ciel, ça sera pour toujours. Donc, c'est là-bas qu'il faut investir plus que dans celle-là. Mais quelque part, voilà, si on investit uniquement dans ce monde ici, ben voilà, c'est la tentation de s'installer dans le matériel, dans le bien-être, et que ça soit vraiment pour ainsi dire notre obsession, le bien-être, le fait d'être bien installé, et puis voilà. Mais non, on n'est que de passage. On a un exemple dans la parole de Dieu, justement, sur ce danger des richesses, avec le jeune homme riche, hein, qui avait un désir, hein, il voulait avoir la vie éternelle en héritage, mais qu'est-ce que Jésus lui demande ? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Alors là, il repart tout triste, et voilà, parce qu'il avait de grands biens. Voilà. Mais Jésus l'invitait justement à réorienter son désir sur l'essentiel. Alors, encore une fois, bon, il ne s'agit pas forcément pour tout le monde de donner tous ses biens, mais ça veut dire, au moins, et alors c'est là-dessus que je voudrais insister un petit peu, quand même de travailler sur la sobriété, une certaine sobriété dans l'usage du matériel. On sait bien d'avoir des choses, bien entendu. Mais si on n'opte pas pour la sobriété, on aura du mal à espérer vraiment. Le monde de l'au-delà, ça ne nous dira pas grand-chose parce qu'on sera trop pris par ce monde-ci. Une citation du pape François. Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d'abondance et de luxe, d'apparence et de narcissisme, Jésus nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel. Dans un monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice, de la recherche et de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Dans une culture de l'indifférence qui finit souvent par être impitoyable, que notre style de vie soit au contraire plein de piété, d'empathie, de compassion, de miséricorde, puisé chaque jour au puits de la prière. La sobriété, toujours dans ce chapitre sur la pauvreté. Alors, la pauvreté, alors là, je vais bientôt passer à l'humilité, mais déjà, c'est pas uniquement pour ce qui est d'ordre matériel, la pauvreté, hein, il y a une pauvreté d'ordre spirituel. Il y a des beaux petits livres du père Jacques Philippe, vous connaissez certains livres. Il y en a un, c'est, entre autres, c'est « Apprendre à recevoir », je crois que c'est ça le titre, si mes souvenirs sont bons. Et là, c'est dans un autre, c'est « L'espérance est cette attitude de cœur qui nous fait tout attendre du don de Dieu dans la pauvreté spirituelle acceptée et dans la confiance. » Il faut réaliser le lien étroit qui existe entre la pauvreté et l'espérance. Tant que nous avons des richesses auxquelles nous nous accrochons, des sécurités, des appuis humains dans lesquels nous mettons notre confiance, nous ne pouvons pas vraiment pratiquer l'espérance qui consiste à ne compter que sur Dieu seul. C'est pourquoi dans sa pédagogie, Dieu permet parfois que nous passions par des appauvrissements, la perte de certaines sécurités, voire même des chutes lamentables, pour apprendre finalement à ne compter que sur lui et sa miséricorde. Même dans le domaine spirituel, nous sommes toujours tentés par la richesse. Nous voudrions être sûrs de nous-mêmes, avoir des stocks abondants de grâce, de vertu, de formation, de sagesse, sur lesquels nous appuyer pour affronter tranquillement les difficultés de la vie. Mais par définition même, la grâce ne se met pas en réserve. Elle se reçoit humblement jour après jour. Elle est comme la manne qui nourrissait les Hébreux dans le désert. Quand on voulait en faire des provisions, elle pourrissait. Voilà, donc, c'est pas confortable, hein, cette pauvreté spirituelle. Mais j'aime bien aussi ce qu'il dit. Certaines fois, il y a des appauvrissements, il y a des épreuves dans notre vie. Alors, bon, on ne court pas après les épreuves, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais quelquefois, on remarque quand même, malgré tout, que c'est dans ces moments que peut-être qu'on s'est rapproché le plus de Dieu, parce qu'on était un peu moins anesthésié que dans des moments plus d'abondance et de facilité. Bon. Donc, après la prière, la pauvreté, j'aborde l'humilité. C'est peut-être inutile que je vous en parle à vous, les saintes femmes. Alors l'humilité, je trouve que ça va encore un petit peu plus loin que la pauvreté, dans le sens où voilà, c'est pas simplement être pauvre, c'est accepter aussi que l'autre nous aide, quelquefois, et que Dieu nous aide, et aussi que l'autre nous aide. Parce que quelquefois, bon, on voit qu'on n'est pas à la hauteur, tout ça, mais recevoir l'aide des autres, ça nous mortifie un peu. Alors, juste deux petits préliminaires sur l'humilité. Hein, ce n'est pas la même chose que la pusillanimité. Vous voyez ce que c'est? Je l'ai bien prononcé, pusillanimité. L'humilité, c'est pas être nul et tout ça, être le plus nul, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, on dit aussi, c'est la vérité. Et il y avait un chartreux qui disait que l'humilité repose sur l'estime de soi. Je trouvais que c'était très intéressant, ça m'a toujours intéressé. On voit bien dans Thérèse de Lisieux, qui est humble, mais elle avait de grands désirs aussi. C'est pas tout. Elle ne voulait pas que des choses soient rabougries pour sa vie, elle avait des grands désirs. Donc l'humilité, ce n'est pas la pusillanimité, où on veut que ce qui est le plus nul, ce n'est pas ça l'humilité. Hein, on peut. Et puis, bon, là, j'aborde que certaines facettes de l'humilité, je n'aborde pas toute l'humilité, mais plutôt ce qui est en lien avec l'espérance. Voilà. Alors, donc, j'entre dans le vif du sujet sur l'humilité. Donc, c'est d'abord reconnaître notre impuissance, reconnaître notre faiblesse. Reconnaître nos défauts. C'est n'est pas toujours facile, hein. Quelquefois, les reconnaître nous-mêmes, ça va encore, mais quand les autres nous le disent, c'est plus compliqué.
C'est là qu'on peut se faire aider.
Oui, c'est là qu'on peut se faire aider. Oui, la correction fraternelle peut bien nous aider. Mais du coup, ça demande quand même tout un travail sur nous-mêmes pour accepter, pour reconnaître notre misère, pour s'accepter comme on est, au physique, au plan intellectuel, au plan moral. Parce que, et à partir de cette reconnaissance, crier vers Dieu, hein, voilà ce que dit le psaume 34. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Mais il a fallu qu'il crie parce que, voilà, il avait bien conscience. Ou alors, au psaume 22, il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. Encore notre fondateur. La sainte humilité nous est incessamment prêchée par nos misères et nos fautes de chaque jour. Nous sommes si faibles, si coupables, si piètres. Nous ne sommes que de pauvres hommes pleins de ténèbres et de corruption. Alors, c'est un premier aspect de l'humilité, à mon avis, c'est déjà de reconnaître notre impuissance. Voilà. Un deuxième aspect, ce serait d'accepter de ne pas se sauver soi-même, mais d'être sauvé par un autre. C'est Saint Paul qui nous dit aux Éphésiens, « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Quelque part dans l'histoire des mérites avec les pharisiens, il y a un peu de ça, quelque part, avec mes efforts, je vais y arriver. Et puis, alors, encore une fois, il faut faire des efforts, mais accepter d'être sauvé par Dieu, on ne se sauve pas tout seul. D'être justifié par lui et de ne pas se justifier. On a des bons exemples dans la Bible avec Gédéon, avec, vous vous rappelez, hein, vous pouvez voir ça dans les juges, dans les chapitres 6 et suivants. Hein, Gédéon, c'est le clan le plus petit, etc. Donc il finit par trouver, 22 000 hommes. En face, ils sont 30 000. Mais Dieu lui dit non, vous n'allez pas partir comme ça parce que vous seriez capable de croire que c'est par vous-même que vous avez eu la victoire. Donc tu dis aux gens, ceux qui n'ont pas envie d'aller se battre, qui n'y aillent pas, qui rentrent chez eux. Donc il y en a déjà plus de la moitié qui rentrent chez eux. Et puis après, plus de la moitié, je ne sais plus combien, mais... Et puis après, il dit, non, ils sont encore trop nombreux, ils seraient encore capables de croire que c'est eux-mêmes. Tu vas les amener près du fleuve, et puis tu verras comment ils boivent. Il ne dit pas le résultat avant. Alors il y en a qui prennent l'eau de façon quand même un peu plus cultivée, avec leurs mains, voilà. Puis d'autres qui se mettent à quatre pattes, et puis... c'est avec ceux qui se sont mis à quatre pattes que tu iras. Ils n'étaient plus que 300 contre, je crois, ou 100, je ne sais plus, contre 30 000. Voilà. Mais du coup, parce que sinon vous seriez capable encore de croire que c'est vous-même qui vous êtes sauvé. Mais voilà, l'humilité, c'est d'accepter d'être sauvé par un autre et pas par soi-même. L'humilité, c'est aussi que les choses ne se fassent pas notre idée. Il y a des bons exemples dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 6. C'est la fin du roi Antiochus Épiphane. Dans la nouvelle traduction, ils mettent Antiochos. Alors, peu importe, moi, je connais pas trop. Mais voilà, il a un revers à la guerre. Alors... Ça commence à mal se passer. Il prit la fuite, battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Et il meurt. C'est triste, hein? Il meurt dans la désespérance, parce que les choses ne se sont pas passées à son, selon son idée. Et puis, où vous voyez, avec Naboth à la vigne, il veut acheter, c'est Akab qui veut acheter la vigne à Naboth, et puis Naboth dit non, c'est l'héritage de mes pères, c'est une propriété de famille, je ne vais pas te la donner, et on ne va même pas te la vendre. Alors, Akab, qui est le roi, hein, retourne chez lui, sombre et irrité. Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, vous en avez parlé ce matin de Jézabel, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Israël, il m'a dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu préfères pour une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu, je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce que tu es roi d'Israël ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te la donner. Et puis, elle fait tuer Naboth. Voilà. Mais du coup, les choses ne se passent pas à son idée. Il se couche sur son lit, il est déprimé. Ça ne vous arrive jamais, hein? Vous couchez dans votre lit, je pense, tous les jours, a priori, mais pas dans cet état. Mais quelquefois aussi, je pense... L'humilité, accepter que les choses n'aillent pas à notre idée. Quelquefois, ça demande de prendre un peu de recul. Alors après, il y a des incontournables. Bon, mais je pense dans l'éducation. Alors bien sûr que les choses ne vont pas toujours à votre idée, j'imagine. À vrai dire, si ça peut vous rassurer, mais vous ne le répétez surtout pas. Même quand le supérieur dit quelque chose ici, ça ne va pas toujours à son idée. Mais... Et je fais un effort pour pas me coucher sur mon lit et pas déprimer. Voilà, parce que quelque part, alors quelquefois il y a des incontournables, il faut tenir bon et puis voilà. Mais quelquefois, bon, on est un peu mortifié parce que voilà, on nous écoute pas, c'est un peu vexant quand même. Notre amour propre en prend un petit coup. Mais alors, donc, faire la part des choses entre ce qui relève plutôt de notre amour-propre blessé ou de vraiment ce qui est important. Et du coup, ça se mêle un peu quelquefois quand même. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Et vraiment revoir les choses. Parce que le bon Dieu sert de ça aussi pour nous travailler aussi quand les choses ne vont pas à notre idée. Et du coup, ça veut dire aussi, toujours dans cette humilité, c'est laisser Dieu faire les choses à sa manière. Parce que dans l'espérance, hein, on l'a déjà vu à diverses reprises, mais Dieu ne répond pas forcément exactement comme on l'avait imaginé. Et ça, c'est déroutant, mais c'est aussi mortifiant pour notre orgueil. Parce qu'on aimerait quand même qu'il fasse comme on avait pensé. Et ça suppose d'élargir, de lui faire confiance. À sa manière à lui, on lui laisse carte blanche. Je vous cite encore le Père Lamy. Alors, il parle de la Sainte Vierge, mais à travers ça, vous pouvez entendre le bon Dieu aussi au-delà de la Sainte Vierge. Voilà ce qu'il dit de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a une prédilection pour la prière humble et confiante des petits. Des prières impératives, il ne faut pas les écouter beaucoup. Elle aime la simplicité. Je reçois des lettres avec des primos, des secondos. Elle n'aime pas ces mécaniques. Pour moi, je mets tout dans le sac, je veux dire, je ne démêle pas. Vous lui présentez ses requêtes, c'est bien. En montant la colline de Notre-Dame-des-Bois, où il y aura un pèlerinage, si vous voulez, au moment de l'ascension, je lui dis, ma bonne mère, je vous apporte bien des embêtements, toutes ces rêveries. Elle est droite, elle a le jugement sain. Il ne faut pas lui expliquer, guérissez-moi tel nerf, parce que c'est tel nerf qui commande telle articulation qui m'empêche de faire tel mouvement du pied. Tout cela, elle le sait. Elle ne se perd pas dans des prières compliquées quand elle prie notre Seigneur. Elle dit Jésus ou bien mon fils. Il lui dit, mère, ils se sont compris. Disons comme les malades le disaient à son fils, Marie, fille de David, aie pitié de moi. Elle ne dit pas un mot inutile, elle ne cherche pas à vous en faire dire, à vous faire en dire un de plus, tant s'en fout. Voilà. Donc, quelque part, nous, on voudrait dire la manière dont Dieu devrait s'y prendre pour répondre à notre demande. Bon, il est assez grand, peut-être. Pour, voilà. Donc, c'est les. Et ça, pour notre humilité, quelquefois, c'est parce que ça demande de prendre un peu de recul et quelquefois le recul aussi du temps. On voit que finalement, avec le recul, ben Dieu s'y est pris autrement. Je pense à l'entretien des cathédrales, par exemple, ou des églises en France. Bon, on l'avait un peu mauvaise quand même, qu'ils polissent toute l'église et tout ça. Mais maintenant, ils doivent les entretenir. Ce qu'on ne pourrait pas faire. Hein. Enfin, alors, bon, le bon Dieu sait servir. Ce n'est pas forcément lui qui les a incités. Allez, oui, oui. Mais de fait, le bon Dieu sait servir aussi certaines fois de choses qui nous déplaisent. Mais si, bon, si nous lui remettons vraiment les choses entre ses mains, il sait les faire contribuer à notre bien. Autre aspect toujours de cette humilité, c'est au niveau du temps. Hein. Il y a un lien entre la patience et l'humilité, je pense. Quand on est très impatient, peut-être qu'il faut qu'on travaille en même temps un petit peu notre humilité. D'ailleurs, dans les Éphésiens, Saint Paul les associe. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Mais les trois ensemble, je pense qu'il y a un certain lien. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors, une petite citation de Saint Cyprien. Pour que l'espérance et la foi puissent porter des fruits, la patience est nécessaire. Car ce n'est pas la gloire d'ici-bas que nous recherchons, c'est la gloire future. L'apôtre Paul nous en avertit. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Voir ce que l'on voit, comment peut-on encore l'espérer ? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. L'attente et la patience sont nécessaires pour l'accomplissement de ce que nous avons entrepris et pour posséder ce que nous espérons et croyons lorsque Dieu nous en fera présent. Voilà, donc cet aspect de l'humilité qui a un lien avec la patience. Bon, voilà, le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Alors, dans la Bible, on voit de fait que, il suffit de feuilleter la Bible, qu'il y a toujours, il y a très très fréquemment un lien entre l'humilité et la grâce. Je vais vous faire quelques citations. Bon, déjà, on le voit dans des personnages comme Jean-Baptiste, hein, qu'il croit, c'est que je diminue. On le voit en Marie, l'humble servante du Seigneur. Bon, mais on le voit aussi avec le publicain qui repart justifié, tandis que le pharisien, il repart chez lui comme il était. Voilà, donc on le voit. Mais on le voit... Alors, qu'est-ce que je vais vous citer ? Parce qu'il y a beaucoup de... Je ne peux pas tout prendre. Alors, ça, c'est un extrait du psaume 32. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Voilà. Il faut que je passe quelques petites choses. Alors, dans Saint-Pierre... Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu'il prend soin de vous. Dans la première épître à Saint-Pierre, au chapitre 5, versets 5 et 6. Et cette expression, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce, vous le retrouvez chez Saint-Jacques. Au chapitre 4 de Saint-Jacques. Voilà. ou vous le retrouvez d'une autre manière, mais dans le psaume 137. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Ou les proverbes au chapitre 3. Le Seigneur se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce. Ou dans le Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Voilà, on voit bien que Dieu se plaît vraiment à accorder sa grâce à ceux qui sont humbles. Hein, c'est l'Ac d'Espérance, vous vous rappelez ? Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce. Mais si je ne suis pas humble, bah, pas de chance, ça ne marche pas. Voilà. Alors, il y a des auteurs aussi qui parlent du pouvoir de l'humilité sur le cœur de Dieu. Est-ce que vous connaissez une moniale française du 17e qui s'appelle Catherine de Bar? Je vous dis rien, ben moi non plus. mais voilà. Elle parle justement de cette humilité. Nous ne savons pas, ou ne nous voulons pas savoir, le secret de ravir le cœur de Dieu. Abaissez-vous et méprisez-vous en vous-même, non en parole, mais en fond de vérité. Si vous faites ce que je vous dis, tout le ciel viendra fondre sur votre intérieur et vous regorgerez de tant de grâces que vous en aurez pour convertir le monde entier. Personne ne connaît ni ne goûte Dieu que humblement. Alors, quand elle dit mépriser, c'est pas se mépriser dans le... c'est plus dans le sens de cette humilité, hein, de reconnaître sa pauvreté. Une pure Edas qui disait « Le bon Dieu m'a choisi pour être l'instrument des grâces qu'il fait aux pécheurs parce que je suis le plus ignorant et le plus misérable de tous les prêtres. S'il y avait eu dans le diocèse un prêtre plus ignorant et plus misérable que moi, Dieu l'aurait pris de préférence. Voilà. » Et du coup, voilà, tout le bien qu'il a pu faire. Et puis, encore un dernier point sur l'humilité, c'est accepter que l'aide passe par les autres. Parce que quelquefois, on aime bien que Dieu vienne nous sauver, mais souvent, Dieu aime passer par les autres. Vous connaissez l'histoire du curé qui est en train de se noyer ? Hein, donc, non ? Alors, il y a un curé qui est en train de se noyer, il est dans l'Oise, qui est en crue, voilà, il se noie. Et, non, c'est pas dans l'Oise, ou c'est un peu plus loin. Parce que, par chance, passe une péniche qui lui envoie une corde. « Accrochez-vous, mon père !» lui lance le batelier. Le curé répond « Je vous remercie, mon fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. » Alors, il est toujours en train de barboter avec sa soutane à l'époque. Et puis, quelqu'un passe et lui jette une bouée. « Accrochez-vous, mon père !»« Merci, mon fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. » Et puis, alors là, il commence à s'épuiser un peu. Et puis, il y a un hélicoptère qui arrive, qui envoie une corde. « Accrochez-vous, mon père !» Gloup. Je vous remercie, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. Et puis, il se noie. Et puis, il arrive au paradis. Encore une chance qu'il arrive au paradis. Alors, il rencontre le bon Dieu et lui dit, « Mais alors, tu m'as laissé tomber tout à l'heure. Mais je t'ai envoyé une péniche. » Et puis, un hélicoptère. Alors, le bon Dieu, il nous envoie aussi des gens, quelquefois. Son aide nous arrive, voilà, mais quelquefois, on voudrait peut-être que ça se passe d'une autre manière, et puis, voilà. Mais je vais m'en arrêter peut-être là pour aujourd'hui. Le quatrième point, ce sera pour la prochaine fois, comme ça, sur l'action. Hein, parce que sinon, je vous laisse poser des questions, ça va comme ça, ou je peux y aller, mais... Alors, avez-vous des questions ? Ah oui. Alors, la grâce, souvent, bon, on considère que c'est une aide de Dieu, hein, Dieu qui vient à notre aide, qui... Bon, la grâce, il y a deux niveaux de grâce, hein, ce qu'on appelle la grâce qui nous rend enfants de Dieu, qui fait que, voilà. Et puis après, il y a des... qui touchent plus notre être lui-même. Et puis après, il y a des grâces plus ponctuelles, on pourrait dire, pour certaines situations. Alors Dieu nous donne une grâce plus particulière pour affronter dans telle situation dans notre vie. Donc, alors, la différence, si tu veux, avec les protestants, c'est que pour les catholiques, la grâce, c'est vraiment Dieu qui nous rejoint vraiment dans notre être. Quand on est baptisé, on est vraiment enfant de Dieu et on est purifié, on est parfaitement rénové. Notre nature est blessée, mais pas corrompue, et on est parfaitement... oui, on est vraiment dans la grâce. Certains courants chez les protestants pensent que la grâce, c'est Dieu qui nous voit bien. On reste de la pourriture derrière, mais Dieu ne nous en veut pas. Il nous voit à travers son Fils. Et du coup, il nous accueille. L'image qu'il pouvait prendre, c'était la procession de la fête Dieu. Il y avait des tas de fumier. Alors, comme ce n'était pas très digne, on mettait des fleurs dessus, voilà, pour quand on passait le Saint-Sacrement. Comme ça, on voyait que les fleurs, on ne voyait pas le fumier qui était derrière. Alors, pour eux, on reste du fumier. Mais le sang de Jésus nous recouvre et du coup, Dieu nous aime en aimant son Fils en nous. Mais dans l'Église catholique, on dit non, c'est plus du fumier. Dieu nous a vraiment rénovés. Il nous a vraiment complètement renouvelés de A à Z. Il ne nous voit pas simplement bien. Nous sommes bien. Nous sommes saints, hein, c'est ce que dit saint Paul. Mais en même temps, on est saints, mais il faut correspondre à ce que nous sommes aussi. Parce que voilà. Je ne sais pas si on nous canoniserait tous. Hein. Voilà. Mais à travers la grâce, c'est comprendre que dans la grâce, ça ne reste pas quelque chose qui nous est comme un peu extérieur. Ou dans la grâce, c'est vraiment Dieu qui veut faire les choses avec nous aussi. Alors, la grâce de Dieu nous précède toujours. Ce n'est pas nous qui méritons la grâce, etc. Voilà, l'amour de Dieu nous précédera toujours. Mais en même temps, il ne veut pas faire les choses sans nous. Il ne veut pas faire les choses sans nous parce que ce qui l'intéresse, c'est vraiment cette relation qu'il a avec nous. C'est ça qui l'intéresse. La grâce, ce n'est pas uniquement quelque chose surajouté. Voilà. D'autres questions ? Oh bon, on peut les utiliser en tout temps, en tout lieu, hein, c'est très bien. Mais après, la prière, c'est quelque chose de très personnel. Certains, quelquefois, prient avec leurs mots. Il y a une grande liberté dans ce domaine-là de la prière, et c'est pas du tout nul de reprendre une prière toute faite. Chacun fait comme... C'est comme dans nos relations humaines, on peut prendre un dialogue, des choses assez, qui sont reprendre des choses qui existent déjà, ou alors on peut vraiment innover et puis dire ce qui nous passe par la tête et puis voilà. Il n'y a pas de n'y a pas une qui est mieux que l'autre, c'est différent. Mais l'important, c'est de s'adresser à Dieu encore là. C'est de s'adresser à Dieu, le moyen. Il y en a qui sont plus inspirés que d'autres, il y en a après. Bon, on prie avec ce qu'on est aussi. Et puis dans notre vie, ça change à un certain moment. Je pense que c'est bien d'être attentif parce que Dieu, quelquefois, nous inspire de pas avoir peur, certaines fois, quand même, de sortir des sentiers battus, d'une certaine manière, dans notre relation avec Dieu. Je sais pas comment le dire. Dieu, il nous inspire quelquefois des choses, ben c'est bien de pas tout de suite le recadrer parce que je sais pas comment le dire. Voilà, et quelquefois il y a des choses qui nous viennent très spontanément, mais écoutons aussi ces choses spontanées qui nous viennent à l'esprit, parce que l'Esprit Saint il passe aussi à travers ça. Oui, tout à fait.
Vous nous dites que la grâce ne vous passerait quand vous êtes, mais comme on sait ni le jour ni l'heure, quand elle viendra, je pense qu'on peut prier d'avance quand même pour qu'il nous aide à ce moment-là.
Ah bah oui, mais on peut prier d'avance, ça c'est clair. Mais en même temps, tant qu'on n'est pas arrivé, alors, ce qui est clair, d'ailleurs, quand l'Église canonise quelqu'un, ben, elle se dit, mais vu la trajectoire de vie, c'est quand même évident que cette personne a dit oui à Dieu à la dernière minute.
Et dans cette progression de la canonisation, quelle est la différence entre vénérable et bienheureux ?
Ah ben, c'est de faire un miracle entre les deux. Mais en fait, c'est une très bonne question parce que quelque part, le pas le plus essentiel dans on pourrait dire pour la canonisation, c'est d'être déclaré vénérable. C'est ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. C'est ça le plat, parce que imaginons qu'il y ait sur la tombe de je sais pas qui, il y ait plein de miracles. C'est pas une preuve de sainteté. On regarde d'abord si on peut proposer en exemple la vie de cette personne. Parce que c'est, quand on canonise un canon, c'est proposer en exemple. Mais la vie d'un patachon ne la proposera pas en exemple, même s'il y a des miracles sur sa tombe. Alors, le bon larron aurait été bien embêté, hein, parce qu'on n'aurait pas pu le canoniser. Bon, c'est Jésus qui l'a fait lui-même, lui, il pouvait. Mais parce que l'exemple qu'il avait donné, juste à la dernière minute, bon, il s'y est bien pris. Mais on aurait été un peu ennuyé pour le canoniser, nous, parce qu'on n'avait pas assez de recul. Mais Jésus, lui, il connaissait. Et puis après, il faut qu'il y ait un miracle. Alors, quand on est martyr, il n'y a pas besoin de miracle pour la première étape. Alors, pour la béate, non, on est vénérable. Enfin, on est vénérable si on... Il y a toute une étude, voilà, on est vénérable. Et après, le pas essentiel pour passer de vénérable à bienheureux, c'est qu'il y a un miracle qui soit reconnu.
Après la mort,
oui. Si c'est un... ça ne sert à rien de faire des miracles de votre vivant, ça ne sert pas pour après. Pour la canonisation. Ah ben, alors, ce qu'il y a, c'est comme il y a beaucoup d'études, c'est vrai, souvent quand c'est le fondateur d'un ordre religieux, ben, sa communauté, elle y travaille, pour eux c'est important, etc. Pour les laïcs, ben, il y a beaucoup de laïcs qui sont saints, mais où il n'y a pas grand monde qui s'occupe d'eux, parce que c'est tout un dossier, il faut toute une étude à faire, donc il prend du temps, etc. Donc, il a fait des miracles. On ne peut pas être béatifié. Il n'y a que les martyrs. Et canonisé, les carmélites de Compiègne sont toujours bien heureuses, elles ne sont pas canonisées parce qu'il manque un miracle pour la canonisation. Il faut de... Alors, Marthe Robin, alors, il y avait d'autres choses qui étaient dans... Parce que du coup, au niveau des foyers de charité, etc., je pense qu'ils voulaient que les choses soient bien claires avant de la béatifier, mais je pense qu'elle le sera tôt ou tard. Je pense qu'elle le sera tôt ou tard.